La mort est sur le dance floor. Vitalik.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le dimanche 17 mars 2013. Nos programmes.
Oh là. Date moins 1, s'il te plaît.
Date moins 1.
Samedi.
Ah oui, on est samedi.
Ouais, mais je l'ai imprimé un peu en catastrophe.
C'est pour voir si tu suis, en fait.
Mais je ne suis rien du tout, moi. Je ne suis qu'un robot, je lis ce qu'on me donne.
Sur un prompteur.
Je suis devant, je vois la vie.
Non, il n'y a pas de rouge antenne là, je crois qu'ils nous l'ont crevé.
C'est n'importe quoi.
Effectivement, ça aurait pu être Sexy Sushi, mais non, c'est Vitalik et je viens de l'annoncer quand même. Mais comme vos micros effectivement étaient coupés, c'était un petit peu difficile. Enfin, vos casques étaient coupés.
C'est super dérangeant de pas avoir le voyant direct.
Moi, je l'ai fait pendant 10 ans. Allez, allons-y. Hop, antenne. On est en direct et on passe sur notre décrochage régional. Donc, on y va.
Mais je reprends tout de suite. Donc vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 16 mars 2013.
Merci.
Mais je t'en prie. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats toujours aussi sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jay Not Dead, et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 FM. Mais dans l'immédiat, voici le film mexicain que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Et avec de la bande dessinée pour les filles, faite par les filles.
Magnifique!
D'ailleurs, ce n'est pas l'intitulé exact de cette chronique. L'intitulé, c'est « Les BD Girls y chouravaient dans les étagères de madame, mais pas touche, elle ne prête pas car elle veut revoir ses bouquins.
Ouais » Elle profite de nos bouquins, nos DVD et tout ça, elle exagère. Pardon.
Mylène, si tu nous écoutes.
Voilà, j'ai foutu la merde, je suis désolé. Je suis désolé.
Moi, je dis que t'as pas les couilles de lui dire en face.
Non, surtout pas.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Voilà, Morgane vient de vivre en direct, ouais, donc premier reset de la date de mixage.
Moi, je me fais
disputer
le troisième jour, enfin voilà.
Voilà. En plus, j'aime beaucoup ton t-shirt, tu l'avais la semaine dernière. Hein.
Non, mais il va falloir que tu changes tes lunettes, hein, vraiment, là ça ne va plus.
Désolé, mais je suis en train de me re-regarder en ce moment les séries de J.J. Abrams et voilà.
Ceci dit, il aura fallu attendre 3 émissions pour que Xavier commence à écorcher le prénom de Morgane.
C'est vrai, c'est.
Il aura tenu quand même. Hein.
Ouais, c'était pas mal. Mais on va l'appeler Xavier.
Xavier.
Mes excuses à Javan. voilà. Bonjour du sport, tu vas bien?
Ouais, ça va, ouais.
Bon, tu m'as promis un bouquin, j'espère qu'il sera intellectuel. Ceci dit, dans le supplément week-end.
Ça dépend lequel.
Ceci dit, dans le supplément week-end cette semaine, avant d'entamer le déroulé, d'annoncer le programme cette semaine, on va peut-être faire nos plus vives félicitations à un comparse qui est toujours présent dans le générique, alors qu'il a été biffé depuis un bail.
Oui, donc l'équipe s'agrandit avec la naissance du petit Yann. Le papa se porte bien, JB, si tu nous écoutes. Nos amitiés à la maman aussi qui se porte également très bien.
Oui, parce que j'ai vu l'affiche de Carac, beau bébé. Hein.
Oui, effectivement.
Ça n'a pas dû être triste.
JB, tu es le bienvenu dès que tu te seras remis de tes émotions pour venir nous parler de ce que tu veux d'ailleurs.
À condition qu'il ait sa fiche prête.
Oui, oui, donc nous avons eu, parce que nous aimons bien discuter avec nos entourages, alors même si nous sommes entourés de spécialistes cinéma, télévision, bande dessinée, alors si tout le monde ne vient pas au micro, les débats continuent en off, et c'est vrai que cette semaine, on nous a relancé sur le dernier James Bond Skyfall. Donc on a vu que ce film avait été loin de faire l'unanimité, donc peut-être de redonner une deuxième chance aux détracteurs de ce film-là, puisque nous en avions dit beaucoup de bien de Skyfall, et bien à l'occasion de la sortie DVD Blu-ray, peut-être reparler de ce petit film.
Bon, on avait parlé des défauts également.
Alors c'est vrai que là, j'ai quand même eu la remarque cette semaine que c'était un mélange entre du permis de tuer et les bouses de Pierce Brosnan, donc...
Ah, ça c'est lui.
Ça c'est dit.
Nous connaissons quelques petits trollers. Donc Seb, si tu arrives à te libérer un samedi, nous t'accueillons avec plaisir. Voilà. C'était la rubrique privée joke.
Oui, bah je vois ça. Bon, Toggle by Select. Yes. Yes.
Mais qu'est-ce qui... Mais je ne sais pas. Ça s'arrange pas. Hein.
Mais j'essaie de remettre en rouge le rouge.
Oui, parce que nous on est perdu sans notre petite lumière rouge.
Perdu. Ouais, mais moi j'avais l'habitude.
Mais t'as le mode d'emploi là.
Non, mais il fait 150 pages.
Tu vois que t'as le mode d'emploi.
Ah bah oui.
Il fait 150 pages. Je le connais à force. C'est un peu lourd. Les 48 heures de la bande dessinée, ce n'est pas un événement avec des auteurs de bande dessinée qui vont essayer de faire un album. C'est
non,
pas
c'est
à confondre avec les 24
heures. Festival de musique, en fait. Non.
Non, c'est une opération commerciale qui aura lieu chez les libraires les 5 et 6 avril prochains, à savoir que 8 éditeurs vont offrir 100 000 bandes dessinées sans obligation d'achat. Il suffira d'aller donc chez les BD libraires et vous aurez parmi les bouquins qui sont offerts, La Bande d'un Bambou, qui est un omnibus présentant en fait les productions de l'éditeur. Le Tueur de Jacquemin et Matt, ça s'est sorti chez Casterman. C'est l'histoire d'un tueur qui se raconte par lui-même. On en avait déjà parlé. Pico Bog de Dorma les Rock, qu'on avait reçu à cette antenne d'ailleurs. Ça c'est chez Dargo, si je me trompe. Le Royaume de Frémont, Pascal Brutal de Riyad Satouf, ça c'est chez Fruit Glacial. C'est le Secret de Girls de Goupil et Douillet. Ah bah tiens, on parle encore de bande dessinée de Girls. Sienna de Desberg, Finmore et Chetteville. Et Ernest et Rebecca. Donc il y a vraiment un peu de tout. Il y a du polar, il y a de l'humour, il y a du médiéval fantastique, un peu dans tous les genres. En même temps, c'est, on espère, une opération qui va permettre, comme c'est pas des BD franchement les big-sellers. Hein.
Oh, Ernest et Rebecca, ça a quand même bien marché. Hein.
Ça avait bien marché. Pico Bog aussi avait franchement bien cartonné. Mais justement, c'est pas les trucs qui sont archi connus par le public qui n'est pas dans la bande dessinée.
Ça, c'est sûr.
Et ça permettra, j'espère, justement, d'amener de nouveaux lecteurs.
Exactement.
De ce côté-là. Toujours, alors cette fois-ci c'est toujours dans les news, Zo, le magazine qui parle de bande dessinée, qui est devenu mensuel et que l'on trouve en général dans les supérettes culturelles dont on ne citera pas les marques forcément, est aussi disponible maintenant dans les fast-food pour aider à essuyer les frites. Fast-food franco-belge d'ailleurs.
Ah, je pensais aux deux arches d'or moi.
Non, celui qui est très rapide. Le numéro 46 est d'ailleurs disponible, donc le numéro de mars, avec une interview de Marc-Antoine Mathieu, la fin de Philémon, puisque Fred raccroche, sachant que Fred a eu une opération cardiaque et il a perdu une partie de son trait. Donc comment il l'a fait justement pour terminer?
Vieux hein, de toute façon en plus.
Oui, il est né en 31 je crois.
Il a 80 balais passés.
Ouais,
quoi,
ouais. Hein, c'est ça, mais ouais. C'était déjà un homme très respectable et qui faisait encore la plongée sous-marine quand je l'ai rencontré il y a 20 ans en interview. C'était ma première interview, donc c'est vraiment...
Tu l'avais fait très bien commencé.
Ah, il y a longtemps. Et il disait qu'il avait des notes, il avait des notes d'eau absolument improbables, parce que chaque fois qu'il était à la recherche d'une idée, et ben il se coulait un bain chaud et il attendait que le bain chaud refroidisse. Et si froid, il n'y avait pas d'idée, hop, il re-remplit l'eau chaude.
C'est une fois que t'as la peau fripée.
Oui, c'est à peu près.
Il faut sortir.
Voilà, donc bien évidemment, on en reparlera, je pense, avec lui. J'espère. En tout cas, c'est la fin de Philémon. C'est dans le zoo de ce mois-ci, sachant que c'est le salon du livre à Paris, je crois, ce week-end. ce week-end. C'est le Salon du Livre à Paris, donc évidemment, on va avoir pas mal de news qui vont débarquer en même temps chez nos amis d'ActuABD. On en parlait la semaine dernière, puisqu'on en parlait spécial, le BD Girly. On parlait de l'immeuble d'en face de Vanida. Sachez qu'il est en cours de réédition intégrale, d'ailleurs, il me semble.
L'intégrale s'est ressortie. La boîte à bulles.
La boîte à bulles, voilà. Pour les 10 ans de cette maison d'édition.
Et heureusement, parce que vraiment là.
Ah, bah, je suis vraiment désolé.
Les lunettes, la tête, les tout. Qu'est-ce qui t'arrive?
Je sais pas. Courrier des audilecteurs, tiens, s'il te plaît.
Tu m'inquiètes.
Ouais, donc.
Courrier des audilecteurs et tu me lances même pas un petit jingle
Bah non, j'en ai pas encore.
Il est vexé, ça y est.
Oh oui, tout à fait.
Oh, si avec ça. T'inquiète, non.
Bon, allez.
Alors cette semaine, nous avons eu beaucoup d'audilecteurs qui nous ont écrit et je vous avais promis de vous parler d'un certain Jean à qui il était arrivé une histoire assez incroyable que je vais vous raconter tout de suite. Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ton micro.
J'en perds mon micro. Oui.
Vous n'avez pas les images et heureusement pour vous. Alors Jean nous dit, le mois dernier, je suis allé chez le dentiste pour me faire plomber une dent. Depuis ce moment-là, j'entends des voix dans ma tête. Au début, j'ai cru devenir fou. Puis après, je me suis dit que ça lui avait bien réussi à Jeanne d'Arc, sacrée femme au foyer, se dit en passant. Bon, après plusieurs jours...
Bravo, merci. Bravo, bravo. Oh là, oh là.
Bon, après plusieurs jours et à force d'entendre des pubs, j'ai compris qu'en réalité, je captais la radio. Ça a certains avantages, comme pouvoir écouter la musique sous la douche, mais ça comporte aussi beaucoup d'inconvénients, notamment quand je capte rire et chansons lors d'un enterrement. Remarque, la dernière fois, ça m'a aidé à pleurer. Bref, tout ça pour dire que le samedi midi, pendant ma sieste, je capte votre émission. Auriez-vous l'amabilité de baisser le son, s'il vous plaît? Merci. Jean de Winchester, auditeur involontaire.
Mais avec plaisir, Jean. Et donc, on va continuer avec les revues de presse, le courrier des audilecteurs. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre?
Alors, j'ai autre chose, mais on s'entend vraiment plus, là.
Bah non, mais on continue.
Alors, Jean, pour toi, tu vois, on parle doucement, j'espère qu'on ne te dérange pas.
Voilà, ce sera un petit peu moins fort, oui.
Alors... Nous avons un audilecteur qui nous a dit « La dessinatrice japonaise Mari Yamazaki, auteure du best-seller Termae et Romae, va jeter son dévolu sur Steve Jobs pour son prochain manga. Qu'en pensez-vous et allez-vous en parler ?»
On a déjà parlé d'un manga sur Steve Jobs d'une biographie.
C'est un manga ?
Oui,
là,
c'était un manga.
C'était un manga,
mais c'était un studio qui fait ce genre de production, justement. C'était pas inintéressant parce qu'en plus Steve Jobs justement avait été traité de ce côté-là. J'ai été vraiment surpris. On s'attend, voilà, Apple c'est la marque, c'est la marque des graphistes, donc il y aurait eu du Lashbot, etc. Et en fait ils en parlaient vraiment comme un dodge bag vraiment comme un vil connard. En fait, première partie, qu'il a abandonné sa fille, c'était assez noir.
Il s'est fait adopter, il y a pas mal d'histoires.
Qu'il avait écarté, Wozniak. Ils ont essayé de le refaire, mais ils sont beaucoup plus doux avec lui sur les 10 dernières années, alors que quand même, les 10 dernières années, il n'était pas si bien que ça. Il y a déjà eu un créneau occupé. Après, la biographie d'hommes célèbres, principalement des businessmen au Japon, c'est un genre à part. Ouais. Carlos Ghosn a droit à sa série depuis qu'il est devenu patron de Nissan. Il y a plein d'autres justement des fortunes.
Tu m'apprends de belles choses.
Comment t'as dit Carlos Ghosn?
Carlos Ghosn.
Carlos Ghosn.
Oui, mais il y a plusieurs.
Le vexe pas.
Bon, d'accord. J'y arriverai jamais.
Et il y a un film qui va sortir sur Steve Jobs. Alors là, il y a Jobs, je crois qu'il s'appelle, non?
C'est Ashton Kutcher.
Et déjà, les critiques fusent. Elles sont négatives.
Alors Steve Wozniak. Il est même pas encore tourné.
Si, il est fini. Il est terminé, il y a le teaser déjà.
Montage, ouais.
D'accord. Oui. Donc, apparemment, les Apple addicts vont être très mécontents. Donc,
dit-il en brandissant sa tablette.
C'est une tablette de Marc Pomé. Donc je vais être mécontent et je vous en parlerai à ce micro.
On reverra ça. Oui, je remontais le son parce que sinon ça va être difficile.
Oui.
J'en ai rien à foutre.
On est désolé, Jean.
Voilà, on est désolé.
Alors j'ai un autre courrier si tu me laisses le temps.
Oui.
Ah, j'ai le temps. Alors c'est une jeune femme qui a l'air totalement intellectuellement stable qui nous dit. Allô. Non mais allô, vous me recevez? J'habite pas à Toulouse et je vous reçois pas. C'est comme si t'étais une radio et que t'as pas d'onde. Comment je peux vous entendre en direct mais pas à la radio?
C'est signé Nabila Nabila du 6-9.
Alors, 6-9, c'est dommage parce qu'on est retransmis sur Radio Doc à Moissac 88.5 et à Montauban 94.2. Et vous pouvez nous capter sur le stream de radio www.radio-fmr.net et en différé sur supplémentweekend.fr.
Mais de façon, Nabila, je pense pas que ce soit une émission pour toi. De toute façon,
je ne sais pas comment tu as eu ce contact.
C'est des livres où il n'y a pas que des textes dedans. Donc,
oui, mais même.
Je ne sais pas.
J'ai trié. On est œcuménique, on parle à tous les publics, même les plus
éclectiques.
Même les moins.
Même les moins. Voilà, c'est sur ces paroles totalement sexistes que peut-être on en a une autre.
J'en ai une autre, oui. Il est pressé, c'est terrible. Alors, j'ai cet auditeur Jean-Michel qui nous écrit: j'ai cherché partout sur Lycos le compte Twitter de l'émission, mais je ne l'ai pas trouvé. Pouvez-vous m'indiquer votre adresse postale pour que je vous envoie mon tweet par courrier? Merci. Top.
Sur Lycos. Oh, celle-là, elle est top.
Alors, je pense qu'on a perdu nos auditeurs.
Je pense que là, ça devient grave.
Je pense que Lycos, tu sais ce que c'est, toi, du sport, Lycos?
Bah oui, Go Get It.
C'est un petit chien. Un petit chien noir.
Go Get It.
Ouais.
Tu connais pas la pub?
Non, moi je connais pas, moi.
Tu connais pas Lycos?
Non.
C'était un moteur de recherche bien avant Google. Avec un petit chat noir comme ça, il y avait la pub à la télé.
Et Go Get It.
Lycos, va chercher Lycos.
Go Get It.
Ah, d'accord.
Ouais,
mais oui.
Et après, il y a eu Hotbot, et puis on s'est.
Donc, du coup, Jean-Michel, je t'invite à changer ton Minitel et à acheter un ordinateur.
C'était un peu avant la bulle informatique.
Mais c'était Ping.
Non, c'était en plein dedans. Ils ont coulé en 2002-2004. Donc, la bulle, c'était 2001.
D'accord. J'aime bien passer pour le noob du service.
Mais oui, on est là pour apprendre des choses.
Non, mais ça me fait un coup de vieux parce que même du sport, il connaît alors que moi, je connais pas. Donc, ça commence.
Et tu te souviens de la mémé qui faisait Ibazar? Ah oui.
36-15 Lycos.
Qui l'en veut?
On va faire une première pause musicale, c'est en introduction du sujet, puisque donc on va passer du hip-hop mexicain, extrait de l'album Neo MX, Melio Q, featuring Johnny Scutal y Silke Ditch, El Tercera Persona.
Quel accent.
Él era uno entre la multitud y como muchos quería salir del ataúd. De la soledad, olvidar su realidad, tener alguien quien le diese seguridad. Típico, de la nada llegó ella, la primera estrella siempre resulta bella. Pero esta fue una ilusión óptica para el hombre más solo, fue una pócima, no pensó dos veces, la bebió mil veces sin querer saber cuáles eran los intereses de aquella y su caricia temporal. Porque es tan efímero lo terrenal, no obtuvo paz, no pudo más, usó su magnum y la mandó al más allá, decidió acompañar con la segunda bala. Y por una vez en su vida tuvo alas. No sabía si caía o si volaba. ¿Qué diferencia daba ser al último día? Fue demasiado moro la carencia de este. Una pregunta común sin nadie que la conteste. Es más fácil contar esas cosas
en tercera persona.
Es más fácil ser el que abandona. Es más fácil contar estas cosas
en tercera persona.
Es más fácil ser el que abandona.
Espinas las rosas.
Él era un tipo que no causaba daño. Se encuentra allá en los cielos, allá en el otro barrio. Lo encontraron inanimado y algo frío. Yacía en la cama junto a los cigarrillos. Un infarto, dicen algunos, fue la causa. En realidad, la culpable es la madrastra, que tanto se negaba en contra de una autopsia. ¿Qué cosa? La perra como araña usó ponzoña. Pobre tipo, su final fue una injusticia. La asesina piensa que segura está su vida. Y así no es, ya que el muerto tiene gentes, que era la ley del diente por diente.
Es más fácil contar esas cosas
en tercera persona.
Es más fácil ser el que abandona.
Espina en las rosas.
Es más fácil contar estas cosas
en tercera persona.
Es más fácil ser el que abandona.
Espina en las
rosas. La jovencita del barrio bailaba mambo como distracción. Esta canción la conocen tantos. Enamorada de un amor imposible y de su eterno canto. Pensando que el tiempo comenzaba a comerla, buscó un esposo aunque fuese cualquiera. Temerosa de quedarse sola, deseosa de ser la del vestido blanco en la boda. Pero no funcionan las cosas a la fuerza. Si cierras tu alma no se abren otras puertas. Aquel aguantó
hasta el tercer embarazo. Y como abogado sin sueldo abandonó el caso. Los hijos crecieron, la juzgaron, nunca supieron cuánto ella había luchado. Nunca superó esa infame traición y hoy guarda sus lágrimas dentro de un cajón. Es más fácil contar estas cosas
en tercera persona.
Es más fácil ser el que abandona. Es más fácil contar estas cosas
en tercera persona.
Es más fácil ser el que abandona.
Nunca te espinan las rosas.
Dedicado Manuel González, en paz descanse.
Miniu Q, extrait de son album Neomix avec Johnny Escuta, Les Silke Ditch en Tercera Persona. Et comment dire, ben, ça fait un bail qu'on n'avait pas interviewé ce type.
Eh bien, Run, oui, effectivement. Donc, nous l'avions interviewé une première fois à Japan Expo en 2008. Une interview mémorable, puisque on avait fait avec un masque de luchador mexicain, d'ailleurs. C'était à l'occasion.
Oui, je sais que j'en avais chié, oui.
C'était, ouais, en plein cagnard, en plus. C'était à l'occasion. C'était à l'occasion d'un. Alors, je sais pas si le. Oui,
le 2.
Le 2 était sorti déjà, Mutafukaz. Il est en train de lancer le label 619 ainsi que le label Araignée pour Ankama. D'une interview très très sympa d'ailleurs, où il nous parlait un petit peu de d'où il venait, comment il gérait son rôle au sein de l'éditeur roubaisien pour diriger les collections. Entre temps, le label 619 s'est développé. Il a lancé une autre série qui s'appelle Doggy Bags, qui est une série omnibus avec trois segments à chaque fois, qui est plutôt un hommage aux histoires d'horreur, au pulp américain des années 50 et 60. Parallèlement à ça, il continue sa série Mutafukaz avec le tome 4, dont ben, peut-être je vais vous parler avant l'interview ou après, je sais pas comment vous préférez. Et donc, alors, entre-temps, nous l'avions re-reçu au micro du supplément week-end, puisqu'il avait reçu le coup de cœur du jury du prix Actua BD, Conseil Général des Jeunes de Charente. C'était la première édition d'ailleurs, puisque c'était Romain Hugo qui avait eu pour le Grand-Duc le prix principal. Et donc.
C'était une très très bonne sélection et les jeunes étaient ravis d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Donc, oui, Run, c'est quand même l'auteur majeur de l'éditeur Ankama, des œuvres. Des séries coup de poing, le mec qui arrête pas, qui gère des labels, qui s'occupe de recevoir des jeunes auteurs, qui lance des trucs, qui reçoit des projets, d'ailleurs il nous en parle dans l'interview. Non, vraiment quelqu'un de passionnant, qui a plein de temps, qui gère les labels et qui le week-end continue de dessiner sa série, donc il est aussi le scénariste. Donc c'est quelqu'un aussi qui aime bien les collaborations, puisqu'il avait fait appel à Bicargo pour faire une BD à quatre mains pour le Mutafukaz tome 0. Il avait confié à Jérémy l'Absolu, c'était un spin-off de Mutafukaz qui s'appelle Metamuta. C'était plutôt, on l'avait vendu comme une série scénarisée par Lynch et dessinée par Klimt, tu vois, un truc un peu ovni. Voilà, donc là, l'interview de Run enregistrée cette année au Festival d'Angoulême, donc 2013. Et donc, nous vous parlons du tome 4 de Mutafukaz juste après. Si tu es prêt. Run, bonjour.
Salut.
Alors, tu étais un petit rookie quand tu as créé le premier tome de Mutafukaz. Maintenant que tu es un boss de fin de niveau, quel regard portes-tu sur ta série? Et osons même un gros mot, es-tu satisfait?
Alors, j'étais un rookie quand j'ai commencé le tome 1. Je suis maintenant toujours un rookie, peut-être un peu plus vieux. Je suis assez content de ce tome 4, ouais, parce que j'ai pu revenir un petit peu aux origines. Et puis le fait d'avoir beaucoup partagé avec tout le crew du label 619, qui sont Florent Maudou, Blackie, etc. Ça m'a redonné la flamme pour dessiner. Donc je suis assez content de la progression graphique que j'ai pu y faire. Et dans la narration, je suis content de ce tome 4.
Alors justement, ton style multiforme, on a dû beaucoup t'en parler à travers les interviews, et c'est aussi ça qui te caractérise. Est-ce que cette sorte de DJ qui jongle avec les styles graphiques, est-ce que tu es conscient d'avoir inventé un nouveau genre? Enfin bon, entre guillemets. Hein.
Je pense pas avoir inventé un nouveau genre, dans le sens où tout ça c'est pas conscient, c'est plutôt je fais ça pour pas m'ennuyer, pour pas ennuyer le lecteur surtout. Je suis conscient de mes faiblesses en termes graphiques et du coup c'est aussi une manière d'expérimenter de nouvelles choses, de trouver ma voix et puis surtout comme je te dis de pas devenir soporifique dans la façon de raconter l'histoire. Par contre c'est vrai que quand j'ai des ruptures graphiques c'est jamais gratuit, c'est jamais pour me dire bah tiens à ce moment-là, je vais passer de noir et blanc à la couleur sans raison aucune. Il y a quand même une cohérence là-dedans, mais c'est vrai que c'est pour briser une certaine routine, aussi bien pour moi que pour le lecteur qui est en face.
Et en d'autres termes, est-ce que c'est parce que tu n'avais pas les bollocks de faire tout un album en manga ou tout un album en couleur, quelque part ?
Non, que je crois qu'il faut avoir encore plus de bollocks pour faire ça finalement. Parce que les gens, c'est vrai, surtout les éditeurs, ils sont vraiment sur le style de la bande dessinée. Quand c'est trop éclectique au sein du même album, c'est plutôt casse-gueule commercialement. De toute façon, c'est mon tempérament, je suis comme ça aussi, même dans mon style, dans ma façon de vivre, dans mes fringues. Je passe facilement d'un extrême à l'autre, c'est plus pour m'amuser à vrai dire.
Alors tu nous confiais à ce même micro en 2008, oui il y a des archives, que tu te sentais pas dessinateur dans l'âme. Après 4 tomes et demi derrière toi, est-ce que ça a changé ?
Pas du tout, c'est toujours la même chose. Je me sens un peu plus à l'aise parfois, mais je me sens beaucoup plus metteur en scène, raconteur d'histoire dans l'âme que dessinateur. Ça c'est clair et net et je crois que ça le sera toujours.
Oui, en plus, tu t'occupes du label 619 et que tu as invité beaucoup de collaborateurs à venir sur tes albums. Est-ce que tu te vois aussi comme coach quelque part aussi ?
Ouais, un peu. Alors souvent, je sais qu'il y a Marie, notre attachée de presse, qui m'appelle Run Sensei. Souvent, on dit de moi que je suis comme une espèce de grand frère. Alors moi, ça me convient tout à fait. Alors oui, je suis directeur de collection, j'édite les bouquins, j'aide les auteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, c'est une forme de coaching presque sportif, qu'on va dire. Pour arriver à ce résultat, j'ai vraiment besoin d'aimer les gens avec qui je travaille et du coup ça devient très simple. Et en fait, les gens avec qui je travaille, je me rends compte au sein du label 619, ça devient tous des amis. Donc ouais, il y a quand même un petit côté clan, il y a un petit côté famille que moi personnellement je ressens, je pense que les auteurs le ressentent aussi. Ça nous permet à tous d'être le plus généreux possible dans ce qu'on fait et de s'amuser tous ensemble quoi.
Alors on va parler des thématiques maintenant, puisque on t'a vu venir au début, le mec qui se la pète aux States et tout, Los Angeles, les gangs, la Santa Muerte, nanana. Dans le tome 3, t'as surpris tout le monde, puisque t'as mis Dark Mid City au centre de l'intrigue. Est-ce que, ben voilà, c'était bam le choc. Pourquoi ce choix dans le tome 3 pour les deux laisser tes petits amis, tes héros habituels un peu sur le côté de la route ?
Ben parce que je veux pas être là où on m'attend. Je veux pas être là où on m'attend et l'intrigue des tomes suivants nécessitait que je me penche un peu plus sur la ville, sur les gangs, sur ce qui était en train de se passer entre guillemets politiquement. Donc le petit nombril de Vince Angelino, je le gardais toujours dans un coin de ma tête. Ils vivaient leur expérience de leur côté, leur aventure. Mais c'était le moment de se pencher un peu plus sur le background à proprement parler et d'aller voir comment ça se passait, comment les autres personnages vivaient la situation dans laquelle la ville était plongée. Et je trouvais ça intéressant de les laisser un petit peu entre parenthèses pour mieux revenir dessus par la suite. En l'occurrence, le tome 4, on se reconcentre beaucoup plus sur les personnages principaux et je pense que c'est avec un grand plaisir que les lecteurs vont redécouvrir Vince Angelino, Willy et la relation un peu bizarre qu'ils peuvent avoir parfois ensemble.
Alors on va parler juste d'une référence. Alors si tu la connais pas, la question tombe à plat du coup. Est-ce que tu connais la série DMZ et est-ce que c'était une référence directe à cette série-là, à ce tome 3 ?
Alors souvent, chaque fois que j'allais en librairie pour faire des dédicaces, on me disait « Tu connais pas DMZ ? Mais c'est génial DMZ et tout !» J'ai essayé de lire un tome, je trouve ça vraiment bidon. J'aime pas du tout. Alors à chaque fois que je dis ça, les gens montent sur leurs grands chevaux en disant « Quoi ?» Mais c'est pas du tout le genre de BD qui me plaît et encore moins qui m'inspire. Maintenant, je respecte le mec, son travail, il n'y a pas de problème, mais je sais pas pourquoi ça me parle pas du tout, cette BD.
D'accord, bon. Dans Boutafocas, tu invites les références à Los Angeles, alors les gangs, le soleil, les latinos, mais bizarrement, tu laisses de côté Hollywood. Pourquoi est-ce que tu fais pas de référence à Hollywood ?
Parce que pour moi, Dark Mid City, c'est pas Los Angeles. Effectivement, Los Angeles, c'est la ville d'ombre et de lumière. Il y a l'ombre avec ses gangs, sa violence outrancière. Et puis il y a le côté lumière avec effectivement Hollywood, les strass, les paillettes. Mais moi pour Dark Meat City ça m'intéressait pas ce côté là. Ça aurait été vraiment beaucoup trop complexe de prendre la référence Los Angeles dans son entièreté pour traiter de Mutafukaz. Il y aurait eu beaucoup trop de choses à raconter sur Hollywood, sur le fait que les starlettes cherchent leur moment de célébrité, sur la Porn Valley. Et puis en plus je connais pas particulièrement, je baigne pas là dedans, donc je trouvais que c'était j'ai occulté ce côté là mais de même que j'ai occulté le côté surf, j'ai occulté beaucoup de choses en fait finalement pour me concentrer vraiment sur le côté le plus sombre, le plus crasseux de la ville. Et voilà, et moi ce qui m'intéresse dans Los Angeles, c'est que Los Angeles c'est une ville quasi fictive, c'est du vent, c'est une ville qui s'étend en perte de vue, bâtie sur un désert, qui est en plus découpée dans une multitude de quartiers ethniques. Avec des discriminations pas que raciales mais aussi sociales. Et en fait à Los Angeles finalement ça a l'air d'être une ville complètement cosmopolite. Ça l'est quand on regarde ça d'un œil extérieur, mais quand on y vit c'est vraiment une ville ghetto parce que les communautés sont parquées les unes avec les autres, se regardent plus ou moins en chien de faïence. Et moi ce qui m'intéressait justement dans Mutafukaz c'était d'introduire deux personnages, même trois avec Willy, complètement singulières, graphiquement en marge, pour voir un petit peu, ben tiens, dans une ville qui est comme ça segmentée à ce point-là, où toutes les communautés réagissent à des codes particuliers, par exemple les Bloods, voilà, ça va être un gang, c'est des Afro-Américains, ils ont des règles précises de conduite, ils s'habillent comme ça, ils portent les couleurs rouges. Bon voilà, finalement chaque communauté a ses propres codes et valeurs. Et moi ce qui m'intéressait c'est de mettre trois personnages qui sont complètement barrés, largués là-dedans et de voir un
petit... Oui, même au niveau de la forme c'est n'importe quoi tes personnages les trois là, parce que autant tu restes sur un contexte un peu enfin entre guillemets réaliste, là t'as un gars qui est fait en antimatière, un Ghost Rider en SD et une chauve-souris. Enfin quand tu décris ça comme ça on dit okay, what the fuck quoi.
Bah disons que moi j'ai toujours eu un problème avec les pseudo-héros dessinés, si tu veux le genre idéal qui va sauver le monde ou ce genre de truc, ça m'a toujours horrifié. Donc le but c'était de trouver dans cet univers complètement hermétique et cloisonné des personnages sympathiques avec lesquels on peut un minimum s'identifier. Et du coup je trouvais que finalement moi souvent les éditeurs me disaient mais le problème de ton personnage Angelino c'est que personne ne peut s'identifier à lui. Et moi je trouve que c'est tout le contraire, tout le monde peut s'identifier à Angelino, tout le monde peut s'identifier à Vince et tout le monde peut s'identifier à Willy. Donc
tout le monde a eu des bagues aux dents.
Tout le monde a eu des bagues aux dents. S'ils n'ont pas eu des bagues aux dents, ils ont des flammes sur la tête. Non mais tu vois ce que je veux dire, je pense qu'on peut s'identifier plus facilement à ces trois losers qu'au reste des personnages qu'il y a dans la ville. Donc le fait de les dessiner en marge graphique, c'était une manière pour moi aussi de les rendre plus sympathiques, parce que tout le reste de la ville sont pas du tout sympathiques, bien au contraire. Et voilà, et de rendre leurs aventures, de s'y attacher un minimum quoi.
Tu nous avais dit à l'époque où tu fabriquais le tome 3 que t'étais passé par une grosse crise existentielle et que t'avais fait traverser Angelino par la même crise, et tu dis dans le tome 3 d'ailleurs que tu es passé par plein d'étapes assez dures. Qu'est-ce qui t'est arrivé, si c'est pas indiscret, ou enfin au niveau graphique hein, je veux dire.
Bah, ce qui m'est arrivé, je veux dire, c'est pas, enfin c'est ce qui arrive à plein de gens dans...
Panne d'inspiration.
Ah non, c'est pas du tout une panne d'inspiration, c'est juste des difficultés au quotidien, du surmenage, enfin un tas de trucs qui arrivent à un tas de gens dans la vraie vie quoi. Mais après voilà, moi je m'en suis servi, je m'en suis nourri pour voilà, pour alimenter mes personnages. Maintenant voilà, rien d'exceptionnel non plus, mais Angelino ça lui crée peut-être une dimension aussi, encore une fois j'avais pas envie qu'on attende d'Angelino qui massacre à tour de bras des gens et tout, ça m'intéressait pas d'aller là-dedans, en tout cas ça m'intéressait pas d'y aller tout de suite. Pour moi quand t'apprends ce qu'il apprend dans le tome 3, c'est normal qu'il y ait une période de digestion, qu'il y ait une période de crise d'anxiété et de tout ce qu'il prend dans la gueule, il faut qu'il digère, il faut. Donc je trouvais ça intéressant d'aller là-dedans, plutôt que faire comme si le personnage passait à travers tout, avait aucune émotion et ouais, voilà, je sais pas si c'est clair.
Si. Dernière question, puisqu'on nous dit que c'est le temps. En tant que patron du label 619, t'as dû en voir passer des projets de toutes sortes. Est-ce que ça c'est pas mal parce que ça te permet de faire un diaporama un peu de la production française au niveau graphisme et en BD. Est-ce que ça correspond à l'idée que tu te faisais de la production en France ou est-ce que tu as été surpris et sur quel domaine?
Non, moi je suis surpris surtout de voir des projets. Parfois il y a des gars qui envoient des projets. Alors je sais pas quel âge ils ont exactement, mais des fois je me dis c'est pas sérieux quoi. Il y a juste à traverser les rayons de la FNAC pour constater que. Et voilà, ils sont pas là. Enfin voilà, c'est des collégiens ou des trucs comme ça. Donc je suis surtout surpris du fait que de plus en plus les gens envoient des projets à des éditeurs alors que avant on pouvait pas faire ça. Fallait partir avec son carton à dessin, rencontrer les mecs en vrai. Là internet ça aide beaucoup à franchir le pas. Donc on reçoit énormément de projets d'amateurs, de gens qui. Je parle même pas de dessins plus ou moins bien faits, hein. Je parle vraiment de dessins de collégiens. Quoi. Des fois presque on se demande si c'est pas des gens en primaire. Donc je suis surtout étonné que les gens voient ça en pensant que ça pourrait faire l'affaire pour une publication. Professionnel. Maintenant, pour se rendre compte de la production franco-belge, non, heureusement, je me base pas là-dessus pour faire un état des lieux. Il faut aller dans une librairie, n'importe quelle librairie, on peut s'en rendre compte, quoi. Mais c'est vrai que je suis étonné de voir qu'il n'y a pas beaucoup de projets de qualité qui sont envoyés, quoi, tout simplement.
Alors on profite parce que l'attaché de presse est parti, donc on a encore quelques questions. La dernière, tu vas finir par te faire gronder parce que ça fait un moment que tu nous parles de l'Arlésienne, le film Moutafoukaz. On va commencer à croire qu'il n'existe pas ce truc.
Peut-être qu'il n'existe pas. Hein.
Il est en antimatière.
Non, ça existe d'autant plus que là j'ai le pilote avec moi sur l'iPad, je l'ai montré tout à l'heure à des gars qui pareil commençaient à se dire c'est long et tout, mais ce qu'il faut savoir c'est que on est en France et c'est compliqué, le dessin animé c'est encore beaucoup apparenté à un public enfant, c'est très difficile de trouver des partenaires qui comprennent ce qu'on fait et qui marchent à 100% dans le projet, donc il y a des ébauches, il y a des choses qui ont été faites, les Lascars par exemple, ça a été fait là il y a 2-3 ans, bon voilà c'est une réussite, c'est très bien. Voilà, maintenant Moutafoukaz, il faut trouver les bonnes personnes, il faut trouver les distributeurs, il faut trouver les diffuseurs, parce que ouais on pourrait faire ça dans notre cave et puis le faire super bien et puis que ça sorte jamais nulle part et que ça passe pas au cinéma, donc tout ça c'est long, malheureusement c'est pas moi qui décide de si ça doit ou pas passer au cinéma, il y a des gens importants qui sont payés pour ça et qui investissent de l'argent, donc c'est normal que ça soit rentable. Ça prendra le temps qu'il faudra, j'espère que ça sortira un jour. En tout cas pour l'instant ça m'a l'air bien parti, maintenant on croise les doigts et puis voilà, ça fait 2 ans qu'on est dessus, hein, donc je pense que ça sortira pas tout de suite quand même.
Ok, ben en tout cas merci beaucoup pour ta disponibilité, merci Ron.
Merci, bon festival.
Ça faisait longtemps, alors il y avait vraiment beaucoup d'ambiance.
Ouais, c'est le bar qui est à côté des Bulles Angoulême. Et puis comme c'est un festival hivernal, c'est vrai qu'à un moment donné, tu te retrouves au chaud à la première adresse venue. Donc en plus c'est quand même un bar où ils ont l'habitude de recevoir des interviews. Et puis les serveurs sont au courant qu'il y a des interviews. Et puis on nous met dans des coins où il n'y a pas trop de passages, etc. Mais quand même, il y a des haut-parleurs qui diffusent de la musique un peu partout. Et quand tu as le micro qui est en face d'un haut-parleur, ça fait du bruit. Voilà.
J'en ai vraiment souffert ce matin pour le montage. Mais on est là pour parler d'un bouquin, du coup.
Voilà, on va parler rapidement quand même de la sortie du tome 4 de Moutafoukaz. Donc, excellente série. Vraiment, je le fais tourner. Alors
mais on kiffe trop, quoi.
Donc, Moutafoukaz, résumé Moutafoukaz, donc c'est Dark Mid City, c'est un univers post-apo, enfin à peu près, c'est après une sorte de grande guerre sur la côte ouest des États-Unis. Il est question d'invasions extraterrestres qui sont glissées dans notre société depuis des années. Il y a un président américain adepte d'un état totalitaire. Il y a des émeutes qui commencent à exploser dans tous les coins, des guerres, des gangs, des aliens dont le héros Angelino qui est un petit petit être à la peau noire qui voit que en fait les extraterrestres, il peut les reconnaître puisque les silhouettes sont ont des grosses oreilles. Il est accompagné d'un autre d'un de ses potes qui a le crâne enflammé comme le Ghost Rider, ouais. Qui s'appelle Vince, et ils ont un troisième ami qu'on voit depuis deux tomes à peu près. C'est une chauve-souris dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs, et donc c'est une équipe de trois bras cassés. Et comme Run est adepte de la lucha libre et du catch mexicain, il a foutu une caste de super-héros défenseurs de l'humanité dans l'ombre qui sont des luchadors masqués, donc qui sont au courant qu'il y a des aliens et qui vont essayer de faire une grosse baston. Et dans ce tome 4, l'action prend une autre tournure puisque l'invasion commence et c'est apocalyptique. Il y a des grosses bastons avec des dos de cheval, les émeutes commencent, il y a des explosions de partout. Et c'est vrai que depuis le tome 3, on avait un peu délaissé les trois personnages principaux pour au profit justement de d'une histoire qui prenait de plus en plus d'ampleur à mesure que ça commençait à partir en vrille dans tous les sens. L'autre point fort, hormis le scénario de cette série-là, c'est vraiment définitivement le point du graphique, puisque Run, c'est un bon quelqu'un, c'est un graphiste à la base, qui est aussi excellent dessinateur, mais qui expérimente beaucoup, qui use de la déconstruction narrative, qui fait des pages en manga avec des différences de papier, des pages en noir et blanc avec un papier plus granuleux, du papier plus glacé pour des couleurs. Il parsème plein de fausses pubs, ces bandes dessinées qu'on retrouve aussi dans la série Doggy Bags, etc. Une référence au Yakuza, au mafieux, à la lutte, au catch mexicain, aux histoires d'extraterrestres. On a également, à un moment donné, il y a, comme dans le Batman saga que
comme
tu parlais...
Comme dans le Batman, je suis tombé dessus.
L'histoire qu'il faut retourner l'album pour... Ouais. Voilà. À un moment donné, dans le tome 1, c'est, par exemple, il y a Angelino qui échappe de peu à un accident de voiture. Et là, tu as la table du dessinateur où il dit « Oh, Sainte Vierge de Guadalupe, protège mes personnages pour pas qu'ils aient un accident. » Là, tu vois les crayons sur les côtés, voilà. Alors c'est un mec qui joue avec la narration BD et c'est vraiment excellent. Si vous connaissez pas cette série, franchement, il faut que vous procuriez le premier tome et vous verrez. On peut difficilement passer à côté, on peut difficilement adorer cette série. Voilà, Mutafukaz tome 4.
Juste une question, parce que dans l'interview, il était question du dessin animé. On a déjà eu, il me semble, la bande-annonce qui était disponible sur le net depuis un bail.
Non, c'est pas la bande-annonce. En fait, il avait commencé en faisant un court-métrage d'animation. C'était en 2003, je crois, à l'époque où il était encore
oui, parce
dans
qu'à
sa...
l'origine, c'était un projet animé d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est un projet animé à la base quand il était dans sa boîte multimédia qui n'en a pas voulu, il s'est barré de là-bas, il a été accueilli chez Ankama, et donc cette volonté de faire un film d'animation ne l'a pas quitté, et ça fait, il nous le dit dans l'interview, quelques années qu'il pense à mettre en chantier ce long métrage d'animation, donc voilà, ça fait 2 ans qu'ils y sont dessus. Il y a des croquis graphiques de préparation qui ont été publiés sur internet, sur sa page Facebook et sur les réseaux sociaux, donc vous tapez Run et puis vous tomberez dessus. Donc voilà, le projet se met en place lentement, mais voilà, il faut du temps. Et alors, il nous avait au cours d'une précédente interview expliqué que lui, on lui avait demandé à l'origine qu'est-ce qu'il voulait faire, s'il voulait faire plutôt un court métrage d'animation, une histoire en BD, et il avait dit naïvement que lui il pensait mettre en scène son histoire directement en long métrage d'animation. À l'époque, il avait pas trop les pieds sur terre. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Mutafukaz tome 4, donc sur la page de garde disapprove de by the Comic Code Authority. Voilà, sous le label 619 d'Ankama, et c'est scénarisé et dessiné par Run.
Et de suite, un petit peu de pub.
Branchez vos oreilles sur Radio Neurone et vous saurez tout sur le cerveau.
La semaine du cerveau, c'est du 11 au 17 mars 2013 à Toulouse.
Retrouvez toutes les informations sur la semaine du cerveau sur leur site, lasemainedducerveau.fr.
Écoutez-nous sur FMR, Radio Occitania,
Radio Campus,
Canal Sud
et Radio Mon Pays.
Venez nombreux!
Hey, tu viens à la 16e édition de Traverse Vidéo du 13 au 29 mars?
Histoires.
Une programmation de vidéos expérimentales, des installations, des expositions, des performances. Partout dans Toulouse et gratuitement, au lycée des Arènes, Cinémathèque, Musée des Abattoirs, Chapelle des Carmélites, Goethe Institut, UGC, Hostal Occitania, Epitech et SAM, Centre culturel Bellegarde. Du 13 au 29 mars. www.traverse-video.org.
Ceci est un message de propagande à l'attention de toi, public auditeur.
Progressons présente
la semaine du rock.
Durant une semaine, du 25 au 31 mars, le Rock Invest Toulouse dans 8 salles différentes avec 25 groupes locaux. Retrouve toutes les infos sur Facebook, la semaine du rock officielle.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Le festival indélébile, c'est le 6 et 7 avril, à la chapelle.
Les petits canards, c'est le festival indélébile qui revient. C'est la mare aux images, c'est du 6 au 7 avril, à Toulouse, à la chapelle. Avec un parcours d'exposition dans toute la ville, les petits canards, dans des cinémas, dans des librairies, dans des bars, même dans des sex shops. Le vendredi 5 avril, grand apéro d'ouverture, avec Monsieur le Directeur en concert à la chapelle. Le samedi 6 avril, au soir, venez dîner avec nous au Moloko, DJ No Breakfast et tous ses amis, les petits canards. Et n'oubliez pas, le dimanche 7 avril, à partir de 15h, un grand loto avec plein de lots à gagner. Le festival indélébile, c'est la mare aux belles images. Et si vous n'avez pas de mémoire, les petits canards, retrouvez tout le programme sur notre site indélébile.org. À bientôt, les petits canards.
En partenariat avec Radio Éphémère.
Éphémère. Le supplément week-end continue avec les sorties bande dessinée encore.
Allez, un autre titre d'Ankama. Et donc ça, c'est la conclusion d'une série, parce qu'on chronique ici beaucoup de débuts de série, ouais, hein, surtout avec les mangas. Et c'est rare quand on dit la série se termine.
Va falloir un jingle début de série ou début de soirée, je sais pas, c'est pas...
Alors là, c'est la série Blue Estate, la série complètement barrée de comics initiée par Victor Kalvachev. C'est le tome 4. Alors, je le fais tourner.
Je le garde.
Alors comment dire, l'énorme bordel hollywoodio mafieux, si on peut dire, trouve ici sa conclusion explosive. Les petites frappes déglinguées, avides de se faire une place au soleil en accumulant les cadavres, ont presque réussi à précipiter la côte ouest dans un bain de sang. Au beau milieu d'une guerre entre les mafias italiennes et russes, flirtant avec un univers de course hippique anormalement enfumé, c'est excellent cette partie course hippique. Du sport, tu vas adorer. Moi, j'étais plié de rire quand j'ai vu ça. Moment hilarant. La veuve de la star de cinéma Bruce Maddox, souvenez-vous ?
Oui, oui.
Et sur le point de tomber dans un piège mortel. Mais les alliances sont aussi fragiles que les cocktails White Russians opaques. Si vous avez vu The Big Lebowski, vous savez ce que c'est un russe blanc.
À consommer avec modération.
Ouais. Alors, pêle-mêle, comme référence dans cette BD, on passe du parrain à David Hasselhoff. Il y a une apparition de David Hasselhoff dedans.
Pardon ?
Oui, oui. Il y a un personnage à un moment donné. Il dit « Ah, elle est trop bien ta baraque. Tu aurais pu nous dire que David Hasselhoff, c'est notre voisin et tout. » Et là, t'as la vision de David Hasselhoff dans son jacuzzi avec deux nanas, les poils sur le torse.
Il est à la K2000 ?
Non. Ah. Non, c'est l'acteur, c'est pas le personnage.
Ah. Bien. On est réactif dans cette émission.
Voilà, c'est une conclusion à la hauteur de la série, complètement foutraque. La conclusion de tous les nœuds d'intrigue, par contre, ça fait plaisir. La signification enfin de ce que c'est Blue Estate.
Ah, quand même.
Oui, ben on sait pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, une armada de dessinateurs, tu sais plus qui fait quoi, tu tournes une page, tu changes de style graphique à l'intérieur de certaines cases dans une même planche, sont pas du tout faits par les mêmes dessinateurs des fois. Donc, aux côtés de Victor Kalvachev qui a créé l'histoire, on retrouve les habitués dessinateurs Robert Vallée, Nathan Fox, Toby Cypress, Peter Nguyen, Andy Kuhn et Dave Johnson. Et dans ce dernier tome, on a deux Frenchies qui viennent enrichir l'équipe, donc Alexis Briclot. J'avais parlé de l'artbook Words and Wonders qui est aussi dessinateur pour des séries de comics, et Kieran, donc un auteur d'Ankama qui avait fait We Are The Night et qui avait participé à un des segments de Doggy Bags. Toujours sur un scénario, une histoire originale de Kalvachev, mais scénarisée par Andrew Osborne et Kosta Yanev. Voilà. Voilà, donc si vous aimez les Hollywood Nights, les films de série B des années 80, les ambiances nocturnes, les petites frappes, les règlements de compte, les grosses embrouilles entre mafieux avec les saunas russes et tout, bon voilà, c'est que des clichés, des clins d'œil, des références de partout, avec des alliances contre nature, des femmes fatales, des mecs, on croyait qu'ils étaient alliés à notre gars, mais en fait, en sous-main, ils culbutaient la nana d'un autre et qu'il fallait pas que les autres le sachent. Enfin voilà, c'est n'importe quoi du grand n'importe quoi. Bon voilà, une BD qui se lit très très vite, mais en tout cas le plaisir visiblement qu'ont pris les dessinateurs et les scénaristes à imaginer cette série, c'est assez communicatif. Donc c'est pas la série du siècle, mais ça fait plaisir.
Non, c'est pas mal, c'est bien troussé hein, de toute façon.
Ouais ouais voilà. Donc les styles graphiques sont assez radicaux, on va dire, mais ça fonctionne aussi dans l'ensemble. Et c'était pas gagné parce que au moins 6 à 7 dessinateurs à la fois dans des tomes qui sont quand même qui sont pas trop épais en plus, donc voilà, ça fait une orgie de style graphique de partout. Blue Estate, label All Steel Ulster, tome 4, 4ème et dernier tome de la série, c'est fini. Donc voilà, Blue Estate par Victor Kalvachev chez Ankama.
Tout à fait autre chose dans les albums BD, puisqu'on revient de la Frenchie, je crois.
Oui,
ouais.
Non, mais il boit, tu vois, juste avant de prendre l'antenne. Et après,
on doit meubler,
après,
tu pourrais. Faute,
et après,
voilà.
T'as la voix qui.
Non, mais tu pourrais.
On meuble après nous.
Tu pourrais opérer une transition un peu plus longue, de telle manière à ce que je puisse me.
Désaltérer. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz.
Alors, une BD également qui vient de sortir, ça s'appelle Badass. Et.
On dirait du comics.
Tu parlais justement d'histoire à plusieurs épisodes, à plusieurs tomes, ça a l'air d'en être une, puisque c'est le tome 1 qui s'appelle Dead End. Dead End qui est en fait le personnage principal de la série. C'est sorti chez Delcourt.
Ouais, tu vois le titre de Mutafukaz là? Le titre du tome?
Ah bah voilà, tu vois quoi, pas.
Dead End aussi.
Dead End aussi quoi. Sauf que là, c'est assez rigolo. Dead End, généralement, on se dit sans issue, donc c'est la fin. Alors que là, c'est le début. C'est ça qui est assez rigolo. Déjà dès le départ. Alors c'est sorti chez Delcourt. Le scénario est de Eric Hanna, le dessin de Bruno Bessadi et couleur de Gaëtan Georges. Le scénariste a déjà fait Les 7 détectives, La Grande Évasion. Le dessinateur, lui, il a déjà fait. Il a participé aux Chroniques des Sillages, le bouquin collectif. Il a sorti également les 6 volumes de Zorn et Dina.
Ah oui,
bah avec et de Morvan.
De Morvan, donc voilà. Oui, Chroniques de Sillages, forcément. Donc voilà, mais c'est un dessin qui est assez fantasy, sympa, mais en fait la série était très très noire.
Oui, ça fait un peu penser à du comics, mais c'est quand même. C'est entre les deux quoi au niveau du graphisme, mais c'est surtout le ton qui est vachement intéressant. Hein, je vais vous lire juste la première page, vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous allez comprendre quel est l'état d'esprit hein, qui anime ces jeunes gens qui nous ont pondu ce badass. Alors, une légère brise soulève la jupe de ma voisine. Le tissu s'envole de sa cuisse comme les papillons se séparent des fleurs. À ma droite, une famille goûte les pitreries du petit dernier, les baguettes chinoises dans sa bouche lui donnant des faux airs de petits vampires. Devant moi, deux tourtereaux s'étonnent d'un baiser volé avant d'envisager une balade ensoleillée. Début mai, le soleil, les enfants, les rires, tout ce que je déteste.
Vous écoutez Direct 8.
J'aimerais quelque chose ici.
J'aimerais qu'il neige de la merde, que la gosse se perfore la trachée avec ses baguettes, que la petite brune dégueule son canard laqué pendant que l'autre lui lèche les incisives. J'aimerais qu'un camion citerne loupe son virage et percute le tout. Les vieux devant s'y mettent aussi. Achevez-moi.
Achevez-le.
Ah ouais. D'accord.
Éloignez vos enfants, merci.
Bon, vous avez compris quel est l'état d'esprit donc de ce badass.
On a bien compris.
Alors, dans
J'ai
ce premier tome,
dans le studio,
c'est énorme.
Dans ce premier tome, dans ce premier tome, ça attaque direct. C'est-à-dire que bon, bah ça c'est un petit peu une petite intro. Et puis
qu'est-ce
bon,
qui nous arrive
dans cette première scène, tu comprends tout de suite de quoi il s'agit. C'est-à-dire quel est l'état d'esprit du héros Dead End, qui s'appelle Dead End. Donc et tout de suite après, ok, c'est un gros fight avec des espèces de mecs bizarres de la d'une mafia, d'une bande de malfrats qui sont chapeauté par un lézard géant. Alors tu dis wow, d'accord, et ça commence à se fighter grave, d'accord, et là tu te dis bon ben ouais c'est pas mal, mais ça manque un petit peu de liant quoi, on va dire c'est un truc de comics bas de gamme, une histoire bas de gamme avec juste des héros comme ça qui se tapent sur la gueule et tout. Le vainqueur, même s'il est un petit peu borderline, on va dire, c'est quand même cool que ce soit lui qui ait gagné, c'est normal. Et non, d'un seul coup, tu dis ah bah non, tu bascules dans un truc différent, parce qu'en fait, l'histoire est composée de deux parties, une partie qui se passe au présent, une partie qui se passe au passé, et qui raconte un petit peu l'enfance, ou plutôt l'adolescence, on va dire, de Dead End, qui s'appelle Jack Parks, et qui était un enfant qui était martyrisé, on va dire, au lycée, au collège. Parce que bon il avait une tronche un petit peu dégueulasse, pleine d'acné. Enfin bon, et quand je dis pleine d'acné, je suis gentil quoi. Parce que quand tu vois la tronche, tu dis ouais, d'accord, y a de quoi. Et qui du jour au lendemain va se transformer quoi. Alors on raconte pas la transformation, bien sûr. Hein, je vous laisse le
parce que pour en arriver là,
le plaisir de la découverte. Et on apprend justement dans les phases qui se passent au présent, qu'il y a c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de bandes armées, le monde du crime règne pratiquement en maître, les flics font ce qu'ils peuvent, ça on a l'habitude, mais qu'en plus il y a des super héros, c'est-à-dire il y a des gars des nanas qui ont des pouvoirs un peu spéciaux. Alors tu te dis ça commence à être un petit peu bornawak, mais non, justement c'est quand même vachement bien tenu. Alors quelques super-héros que tu vois en action, ou super-héroïnes que tu vois en action, ont vraiment des pouvoirs, mais vraiment très spécifiques. On va dire qu'ils ont vraiment, il y a eu de la recherche, tu vois, au niveau du pouvoir qu'on peut infliger à quelqu'un par rapport à son personnage, le pourquoi du personnage, tu vois, enfin bon, tous ces trucs-là, le background du personnage, pourquoi il est comme ça, enfin tout ça. Et là, c'est quand même, il y a eu vachement de recherche, c'est vachement bien foutu, et c'est carrément hyper jouissif, parce qu'en plus, tu as des dialogues, je vous ai lu la première page, les dialogues, des fois on se dit c'est un petit peu du Audiard matinée de Tarantino, tu vois, c'est des trucs qui rentrent dedans comme ça, mais ça passe comme une lettre à la poste, et tu dis ouais, mais c'est carrément excellent, c'est trop bon. Bref, on attend que le second tome quoi, c'est badass. Donc de Anna Bessadi et Georges, c'est sorti chez Delcourt, et le premier tome donc s'appelle Dead End.
Bien, en tout cas, tu as sérieusement donné envie de lire. C'est dans la collection Comic Fabric.
C'est-à-dire que quand tu commences à lire, quand tu commences à lire au bout de la première, des deux premières scènes, tu dis où est la nouveauté? Il y a peut-être un ton qui est intéressant. Les dialogues, effectivement, sont vraiment très percutants, très actuels. C'est bien, quoi. Il y a vraiment beaucoup de recherches. Et c'est quand l'histoire que se développe au fur et à mesure que tu dis « Ah ouais quand même, il y a un truc. »
C'est marrant parce que sur la tranche, il y a un petit canard en jaune en haut.
Ça n'a rien à voir.
Est-ce que ça a rapport avec la BD ou pas?
Non. Non. Bon, ok. Le canard ne bouge pas du tout.
Tiens, on a un espace, qu'est-ce qu'on va mettre? Un canard, ok.
En général, justement, tous les bouquins chez Delcourt sur la tranche, t'as toujours un petit symbole en haut qui rappelle la série.
Ouais.
Et des fois, t'as des trucs qui ont rien à voir.
Ah, ça, c'est la série Canard, alors.
Ça en fait partie. Série Canard.
Mais des fois, t'as des surprises, des fois, sur la signification du truc, tu fais, ah oui, d'accord. Thomas, pour la partie, cinéma, il y a marqué Frères Wachowski, qu'est-ce que je fous? HK ou classique?
C'est plus les frères, c'est les frères et la sœur maintenant.
Et la sœur.
Oui, c'est vrai.
Wachowski.
HK ou traditionnel?
Oula.
Il y a du kung-fu dedans, mais c'est un film traditionnel. Donc, est-ce que tu as toujours le classique version canal ellipse?
Oula. Ouais, mais alors là, non, il est planqué dans.
Dans un CD.
Donc, attends, c'est le moment où il faut meubler là. Oui. Alors,
nous allons parler de.
De ce que tu veux. Alors, moi, je trouve qu'il fait
beau.
Je tiens
à signaler qu'on a 10 followers sur le petit oiseau. Je sais pas qui nous a acheté des followers, mais je les vire d'entrée. Hein. C'est des bots.
Mais on a besoin de bottes aussi.
Il fait froid.
Il fait très froid. Je disais qu'il faisait beau, mais bon, là,
Tu nous. Alors, de.
Ah putain, d'accord.
C'est terrible. Alors, je rappelle que nous avons un superbe conte du petit oiseau. En effet, on n'a pas le droit de dire.
L'intitulé du conte ?
Ouais, de la marque
ah,
du
oui, la
petit
marque.
Oiseau.
Donc, on
ne sait pas pourquoi.
On peut quand même dire donc, que c'est le conte, ça s'appelle Sup
d'accord,
Weekend.
J'ai compris,
exactement.
J'ai
donc,
compris,
avec un petit arrobas devant.
Voilà.
Et n'hésitez pas à nous suivre, on vous enverra du
bon, en
des
fait,
chocs à
que vous, en fait vous me parodiez une autre émission de la radio là et vous voulez qu'à la place je mette un fond sonore, c'est ça quelconque.
C'est, là il est en train de s'automeubler.
Oui.
Parce qu'il ce qu'il faut comprendre c'est qu'il galère avec son ordi à essayer de nous mettre une musique.
Non mais c'est pas grave, c'est sinon tu mets un jingle normal.
Sinon tu le chantes, fredonne-le. Partage avec nous tes talents de fredonneur.
Non mais je l'ai et il est ici.
Cinéma, ah. Cinéma, on l'a eu.
Cinéma, pom, pom. Cinéma,
cinéma, et là, imaginez Xavier en train de danser partout.
Ah, Thomas, voilà. Bon chicha de derrière les fagots, ça fait toujours plaisir.
C'est surtout quand c'est par un Toulousain.
Alors,
mais oui.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film. Un film, on va dire, inclassable, un film, on peut dire aussi, racontable. Et c'est une vraie plaie de parler de ce film sans spoiler ou en essayant de vous donner envie dans un délai relativement court. Ce film, c'est Cloud Atlas, qui est sorti depuis mercredi. Un film donc de Tom Tykwer, réalisateur allemand à qui l'on devait déjà Courlo la cour, ainsi que les frères et sœurs Andy et Lana Wachowski, donc on ne présente plus, hein, Matrix, Speed Racer, également producteur et scénariste du film V pour Vendetta. Alors, au casting, on va commencer par parler du casting.
Scénariste, ça va faire plaisir. Un mage.
Hein ?
Continue, ne l'écoute pas.
Ah,
ne fais pas
Alan Moore, il va apprécier, ouais.
Ben, scénariste de l'adaptation de V pour Vendetta. Alors, au casting, on retrouve les habitués des deux réalisateurs, Hugo Weaving.
Comme d'habitude.
Hugo Weaving, j'en reparlerai après. Suzanne Sarandon, qu'on avait déjà vu dans Speed Racer. Il y a un festival de contre-emploi hallucinant, donc Tom Hanks, qui porte le film sur ses épaules. Halle Berry, qui est plus en forme que jamais, on va dire, à tous les sens du terme, ma foi, un argument qui envoie un autre et qui est assez incompréhensible puisque la nana, on la voyait plus depuis quelques années. Donc voilà, elle est toujours excellente à l'Eberry. Donc c'est assez incompréhensible qu'elle soit disparue de la circulation. Et également un rôle de contre-emploi plus en retrait, Hugh Grant.
T'es, il nous fait plus l'anglais de service
Ben si, parce que il y a pas mal de parties de l'histoire qui se déroulent dans un univers britannique.
Ah,
donc,
bon, d'accord.
Ils ont
donc, acteur anglais, il n'y en a qu'un, voilà.
Bah, il y en a d'autres. Ensuite, il y a Jim Broadbent,
ouais.
qui est toujours excellent. On a Jim Sturgess, Ben Whishaw. Alors, Ben Whishaw, le nom vous dira peut-être rien, mais c'est le nouveau Q dans les James Bond depuis Skyfall.
Ah, il est jeune.
Oui, oui.
Très
alors,
jeune, oui.
Il incarne le petit jeune anglais.
Mais bon, ma foi, là.
Et on
il est pas en ce moment dans une série anglaise sur la Bible ?
Ça ne me dit
non,
rien.
Bon d'accord, ok, je vérifierai, ça m'évitera de dire les conneries.
Voilà, on a James Darcy également, et ainsi que l'inusable, toujours excellent, Keith David.
Ah.
Keith David, voilà, voilà, c'est Keith David, quoi. Alors le film...
Il y a beaucoup d'acteurs, un gros casting.
Un gros casting,
quand même.
Compte tenu du nombre de rôles,
ouais.
Tu verras que le casting est limité.
Ah.
Alors, six
Explique-nous.
Époques. Le film se déroule sur six époques. Dans un monde post-apo, un père de famille hanté par la mort doit guider une femme vers un sanctuaire. Néo Séoul, un futur aseptisé, une serveuse clone devient l'héroïne d'une rébellion. En 1850, un jeune avocat épouse la cause des anti-esclavagistes. Dans les années 1930, un jeune homosexuel devient l'assistant d'un grand musicien mais se retrouve prisonnier.
D'accord.
Dans les années 70, une journaliste veut dénoncer un scandale industriel.
T'es sûr qu'on parle d'un même film ?
Oui. D'accord. Et enfin, de nos jours, un éditeur est piégé par son frère dans une maison de retraite.
Quel est le lien entre toutes ces personnes ?
Le lien entre toutes ces personnes, c'est...
C'est beaucoup de bœufs.
Le lien entre toutes ces personnes...
Thomas oscille la tête.
C'est la destinée.
La destinée.
La thématique.
Trop cool. Ah.
La thématique centrale du film, c'est la destinée. C'est
ça m'intéresse.
Les thèmes de réincarnation, uh-huh. de déterminisme, d'ode à la liberté.
D'accord.
Des personnages tous liés les uns avec les autres par des inspirations artistiques, des aspirations à ce qu'ils veulent faire de leur vie.
Il y avait un film comme ça, anglais, avec Emma Thompson et son mari à l'époque, dont j'ai oublié le nom, acteur...
Kenneth Branagh.
Exactement, où en fait, c'était un couple qui avait une vie dans le passé, et en fait, ils se sont réincarnés en échangeant leur corps. Et en fait, c'est une enquête policière qui se passe dans...
Kill Me Again.
Et ça me fait penser à ça, et très bon film anglais, vraiment... Et donc cette histoire de destinée comme ça, là, tu me le vends, j'ai envie de le voir.
Ah, alors, l'autre particularité du film, outre le fait que ces segments-là sont liés entre eux, mais dont le liant est dévoilé progressivement dans le film, à la fin c'est plus ou moins lisible, assez clair, mais au début ça l'est pas du tout. L'autre particularité, c'est que l'intégralité des rôles principaux, n'importe quel rôle principal, est joué par les mêmes acteurs. Sans distinction d'âge ou de sexe.
D'accord. C'est pointu, là.
Donc, nous avons... nous avons, par exemple, Hugo Weaving,
oui,
qui incarne avec délectation, par exemple, un tueur des 70s qui est un immense clin d'œil à son rôle d'agent Smith, parce que c'est la même chose. Et aussi, on le retrouve en
elfe. Et là, ça devient bizarre, là.
Et on le retrouve dans le rôle d'une matone castratrice dans le pensionnat de retraite.
Pardon ?
Oui, avec des gros seins, une perruque, etc.
Très bien.
Alors...
Ça peut être une référence avec le changement de sexe d'un des réalisateurs.
Non, mais
Faut
se rappeler qu'Hugo Weaving, enfin moi je l'avais découvert dans Priscilla, faut le dire, hein, aussi.
Voilà.
Hein,
voilà.
Il y retourne.
Je pense qu'il y a une logique derrière ça.
Ouais, ouais.
Après, c'est vrai que oui, on peut faire aussi le rapprochement avec l'un des co-réalisateurs. Bon, rapprochement qui peut être quand même un raccourci facile, mais bon voilà.
Vas-y, dis que je fais des raccourcis faciles.
Voilà. Alors, film OVNI. Alors, bon, on a commencé à parler du fait que les acteurs jouent plusieurs rôles. Certains s'en tirent un peu plus avec les honneurs que d'autres en fonction de leur faciès déjà, puisque certains ont plutôt une gueule à tout jouer et d'autres sont plus un peu plus limités. Tom Hanks, je le trouve absolument excellent. Alors, bon, après, il y a les artifices du cinéma. Il faut se mettre dans l'esprit, c'est-à-dire le cinéma est avant tout un art d'artifice et il y a certaines tricheries, on va dire, visuelles qui sont plus proches du théâtre que du camouflage intégral. Par exemple, Tom Hanks joue à un moment donné un vieux qui, dans le cadre d'un biopic, tout le monde aurait crié au génie en disant « Oh là là, il est méconnaissable, qu'est-ce qu'il joue bien ?» Sauf que là, en fait, dans le film, on a une accumulation d'acteurs grimés, de maquillage, de moumoutes, de postiches. Et à un moment donné, comme tu sais que ce sont les mêmes acteurs, tu te perds, à un moment donné, tu sors du film et tu te dis « Mais putain, mais c'est lui !»
Ah, d'accord.
Ou « Mais attends, la nana, c'est pas la coréenne que j'avais vue qui incarne maintenant une rousse anglaise ?» Ou attends, tel acteur anglais, il incarne coréen là, je suis pas rêvé. Voilà, à un moment donné, tu sors du film et tu te dis ah, c'est bien fait, mais ah putain, c'est lui. Et, ah oui, c'est vrai, je regarde un film. Alors, tu reviens dans le film après, mais c'est vrai que t'as un moment, à un moment donné, de battement où tu sais
d'accord,
plus.
D'accord, t'es plus dans le film, t'es vraiment spectateur.
Voilà, ouais, ensuite, le tour de force du film qui pour moi est beaucoup plus à souligner que les maquillages, c'est surtout comment réussir à lier six segments. Alors au contraire, puisque c'est une adaptation d'un bouquin bouquin d'un romancier britannique qui s'appelle David Mitchell, dont la particularité quand tu écris un roman, c'est qu'à chaque chapitre est consacré à un personnage, à une époque, et ça te laisse sur un cliffhanger alors que l'action va trouver un point culminant, ouais. Et là ça te laisse sur ta fin, puis tu vas sur un autre. Enfin, tu peux un peu faire ça, mais l'immense tour de force pour moi de ce film là c'est que on dirait que c'est une même histoire. Par exemple, quand un mec va être coursé par un autre, Et bien en fait, à un moment donné, il va se retrouver prisonnier, par exemple, dans...
D'une bouteille de mescaline.
C'était la deuxième blague du jour.
Il va se retrouver prisonnier, par exemple, dans un cagibi, ou alors la nana va avoir un accident de voiture et elle va être coincée dans une voiture sous l'eau. Et bien, la séquence d'après, via un cut, pas d'artifice, un autre personnage dans le futur va être coursé par quelqu'un d'autre ou va être, à un moment donné, acculé dans un huis clos. Et... Alors, certains segments sont plus statiques que d'autres, puisque par exemple, pendant un segment, t'as le héros principal, passe son temps sur un bateau à être empoisonné par un autre gars qui est maléfique, incarné par Tom Hanks, qui dans un autre segment va incarner le bien.
Ah putain.
À un moment donné, tu as des emberlifications.
Il y a un bouquin qui te le file à l'entrée pour.
En fait, tu apprends, tu vois qu'il y a un lien qui est. Que tu n'identifies pas au début et qui. Tu te dis, mais c'est vachement bien fichu. Et un autre truc, parce que tu as aussi des entremêlements et des clins d'œil, par exemple, à un moment donné, tu as l'éditeur joué par Jim Broadbent qui se retrouve prisonnier dans la maison de retraite.
Prévoyez une bonne nuit de sommeil avant d'aller voir le film. Hein.
Et il dit, alors le film dure 2h45.
Ah, voilà. J'allais te demander.
Et le mec, il se dit. Ah putain, moi j'ai envie d'écrire mes aventures ici. Je verrais bien une adaptation au ciné. Mon rôle pourrait être incarné par Michael Caine ou voilà. Et en fait, à un moment donné, dans le futur, dans Neo Séoul, tu vois que le. En fait, c'est un segment qui est en creux par rapport aux autres. Tu te dis, mais pourquoi ils ont parlé de ce segment-là ?
Prévoyez du Red Bull aussi.
Il apporte rien à l'histoire, sauf que ces aventures-là vont déclencher quelque chose, une rébellion dans le Neo Séoul de l'an 2150. Et la nana est en train de regarder une adaptation, effectivement, des écrits de cet éditeur, et il est joué par Tom Hanks. Mais le Tom Hanks que nous, on connaît, pas le personnage.
Ah d'accord. Ah, oui. Mais c'est psychédélique. Là.
Mais c'est excellent. Alors, évidemment, quand tu le racontes comme ça, quand tu n'as pas vu le film, tu as l'impression que c'est n'importe quoi. Mais quand tu es dans le film, ça passe.
Est-ce que tu as des aides du genre un petit texte
Non.
En 1960.
Non, parce qu'en plus, film, ça commence sur un Tom Hanks vieux, cicatrisé, défiguré, qui raconte. Donc, évidemment, c'est la fameuse artifice du conteur qui va te raconter tout le film. À la fin, tu t'aperçois que tu pensais qu'il était sur un lieu ou dans une époque.
Ne spoil pas.
Non. À la fin, tu t'aperçois que c'est pas du tout ce que tu pensais au début.
Merci.
Et au début, t'as le titre qui apparaît au bout de certains enchaînements de segments, donc que tu vois pas arriver. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que t'es dans un post-apo à l'âge de pierre. Ensuite, tu revas dans une espèce de voilier en 1850. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, tu vois, d'accord. Et puis, en plus, tu vois des personnages, tu dis, ouh là, c'est un acteur grimé ça. Et puis après, tu commences à comprendre le concept. Mes indications, je recommande d'en lire le moins possible avant de voir le film pour avoir la surprise parce que le film fonctionne pas mal là-dessus. À l'heure d'aujourd'hui, je l'ai vu hier soir, je ne peux pas vous dire si c'est un chef-d'œuvre ou si c'est un nanar cosmique. Je ne sais pas.
En clair, tu viens de définir exactement ce que l'on pensait des 2 et 3 de Matrix. Voire du premier.
À mon sens, les 2 et 3, je l'avais pris pour une fémisterie à l'époque. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre intégral pour moi aujourd'hui. Voilà. Alors, on en a déjà parlé à cette antenne, on s'est déjà fighté dessus. Pour moi, le Matrix 2 est le meilleur des 3, mais bon, voilà. Je lance mon petit troll, hein, voilà.
Je ne répondrai même pas.
Voilà, donc, Cloud Atlas, ce qu'on peut dire du film, c'est quand même que c'est un film, il faut avoir des burnes pour sortir ça aujourd'hui.
J'allais te dire, qui a pu produire ça enfin,
alors justement, c'est le film indépendant le plus cher de l'histoire, puisque même, c'est distribué par la Warner, mais on trouve pas trace des habituels partenaires, Joel Silver, etc. Ça a été produit essentiellement par des fonds européens. Il a été tourné en partie à Berlin. Il faut savoir que les deux frères et sœurs Wachowski se sont occupés de certains segments et d'autres segments ont été réalisés par Tom Tykwer. Donc voilà, chacun s'est occupé. Ils n'étaient pas à trois sur un set. Ils ont, pour gagner du temps et pour diviser les coûts, ils ont tourné en même temps. Et donc du coup, les acteurs devaient aller sur plusieurs plateaux à travers le monde en même temps. Donc c'était assez compliqué à gérer.
Super lourd. Et niveau effets spéciaux
Niveau effets spéciaux, le segment qui utilise le plus d'effets spéciaux, c'est le segment à Neo Séoul. C'est vraiment du Blade Runner matinée. D'autres films de science-fiction, je vous dis lesquels, vous allez, ça va vous spoiler le truc. C'est au niveau scénaristique, donc je vous dirai pas du tout ce que c'est. Ça, c'est juste que c'est une grosse référence du film d'action des années 60. Vous verrez que, voilà, les effets spéciaux de Neo Séoul, c'est excellent. Alors évidemment, péché mignon des réalisateurs, il y a du kung-fu.
Ah ça, on peut pas y échapper de toute
exactement,
manière.
Exactement, du kung-fu avec des séquences au ralenti. Avec
même dans Speed Racer, on en a
eu. Il y a pas du bullet time, mais il y a quelques références quand même.
Ils ont pas innové là cette fois, ils ont pas trouvé une autre technique.
Non, ça reste quand même de la pure SF avec de la SF même old school un petit peu, on va dire. Mais voilà, au niveau du rendu, ça marche bien. Les segments sont assez inégaux, mais le fait que je ne puisse pas vous dire si c'est un chef-d'œuvre ou si c'est un nanar, à mon sens, c'est quand même révélateur d'un bon signe pour ce film. Je pense qu'il sera, à l'instar de Speed Racer, qui avait été conspué à sa sortie et qu'aujourd'hui commence à être réhabilité, je pense que ce film, dans 10 ans, certains commenceront à en parler en bien.
Vanguard.
Comment ?
Vanguard.
Oui, voilà, oui, ouais. C'est réhabilité au fur et à mesure des années. Donc voilà, Cloud Atlas, selon moi, ça, il a des chances qu'il marche pas, hein, franchement. Alors c'était une plaie de voir ce film hier en la séance, parce que les gens, je pense qu'ils ne sont pas informés quand ils vont voir des films. Ils vont voir un film comme ils auraient pu aller voir Fast and Furious. C'était déchaînement de téléphone portable.
Attends, excuse-moi, mais tu es allé le voir en VF?
Oui.
Bah ça explique cela.
Oui, mais bon, voilà, je pense qu'ils ont, ils s'attendaient à voir soit du kung-fu.
Est-ce
soit,
qu'il existe en 3D?
Alors,
s'il existe en 3D, c'est un AV. Ça marche comme ça.
Je sais pas si c'est en 3D, je peux pas très bien.
C'est plat comme blague.
Non, c'est...
Voilà, donc Cloud Atlas, film indescriptible, film ovni, film. On peut pas trop en raconter de plus sur le film. Juste, j'y suis allé avec madame.
Elle a dormi.
Non, justement, à ma grande surprise, elle aime pas trop les films à segments, mais elle m'a dit. J'ai arrêté de me poser des questions sur le film et j'ai accepté de me dire que j'étais en train de voir plusieurs films en fait.
Ah.
Voilà. À partir, je pense que le fait les imbrications d'histoire et tout va perdre des gens, parce qu'en plus tu dois retrouver des noms, t'as des noms britanniques aussi à un moment donné, des gars.
Il faut fournir un peu d'intellectuel.
Ouais. Alors je vous passe aussi, parce qu'il y a des noms de personnages qui sont, dont la vie est adaptée en bouquin, des bouquins qui sont lus par d'autres personnages dans le futur ensuite, et qui se choisissent un pseudo en fonction du vrai nom d'autres personnages qui ont existé avant. Hein? Ok? On y est? Allez, je reste là-dessus. Cloud Atlas de Lana et Andy Wachowski est co-réalisé par Tom Tykwer. Franchement, si vous aimez les films qui OVNI, qui sortent des sentiers battus, et si vous voulez pas des films tièdes, allez-y.
D'accord. Et oui, j'ai bien reconnu Ben Winchlow dans The Horror actuellement sur Arte. Ouais, malheureusement, très difficile à capter en VO ST.
Ah bon ?
Ils oublient les sous-titres des fois Arte.
Ouais, ça leur arrive.
Ouais, ça leur arrive un peu souvent. Et quand tu le regardes sur le différé, impossible d'avoir un VO. Donc t'es juste de la baisse.
Ouais.
Mais bon, voilà. En tout cas, Thomas, pour une fois, donc j'ai regardé un peu les critiques. Les Inrocks ont dit tyrambique.
Il y a très bonnes critiques.
Ils ont pas mal aussi de nominations, de récompenses sur les effets spéciaux, sur le maquillage et tout ça. Donc
ça fait longtemps qu'il est attendu ce film. Moi, j'ai entendu parler de plusieurs.
Il avait été jugé d'ailleurs inadaptable par le propre romancier.
Oui.
Donc voilà. Oui. Et puis moi, je vous dis que moi j'ai des. Il y a quelques moments dans le film où j'ai décroché, je suis passé systématiquement du qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que c'est bien, à qu'est-ce que c'est naze. Pendant tout le film, j'ai fait des montagnes russes en fait.
C'est un exercice de style de faire un film comme ça. Enfin, c'était un défi. Bon voilà, ils ont osé le faire, je pense qu'eux avaient les moyens, mais bon, j'irai le voir.
Mais moi, je préfère des films comme ça où tu te dis qu'est-ce que j'ai vu en sortant de la séance, ça te hante pendant des semaines après. Tu te dis est-ce que c'était bien ou est-ce que c'est pas bien, plutôt que des films où t'es emballé en sortie et que quand ils repensent quelques mois après, tu te dis c'était quand même naze.
Cowboy versus envahisseur, ce genre de choses.
Effectivement. Donc, je pense que on est certains dans l'équipe à bien aimer les ovnis ou les films qui sortent des sentiers battus. Je vous encourage vraiment à aller voir ça. Déjà parce qu'il faut qu'il soit soutenu, parce que c'est bien de soutenir des entreprises comme ça, des films qui sortent des sentiers battus, puis c'est pour ça que le cinéma existe.
13h19, tout à l'heure dans du sport, je crois qu'il y a il y a une interview, donc Duce, il va falloir que tu fasses un choix entre la télévision et le bouquin dont tu as décidé de parler.
Pas parler.
D'accord, donc la semaine...
Moi j'attendais que ça.
On fait de la pub pour un truc qui
n'y aura
pas.
La semaine prochaine donc, nous mettrons sur le divan. Nous mettrons sur le divan donc un footballeur.
vous fais du TF1.
Oh putain.
Non, mais enfin, oh, les salauds, un ascenseur émotionnel, je...
Ah ouais.
J'attendais que oui. Ça toute la semaine.
Attends, il reste 10 minutes.
Alors que c'est un
c'est
enchaînement.
Le climax, là.
C'est un enchaînement parfait avec ta rubrique sportive.
Mais oui.
Putain. Non, plutôt la télé.
Bon, okay. D'accord, la télé. Ben alors, allons-y.
Ce soir, une série sur France O. Et vous savez que j'adore les telenovelas.
Eh oui.
Alors là, c'est de la telenovela colombienne et qui raconte la vie de Pablo Escobar, le patron du mal. 74 épisodes.
T'as le mal, il est un patron. Il a... Monsieur le mal.
Bonjour.
74 épisodes. Et super production dans le monde de la telenovela. Enfin, c'est une telenovela qui a été suivie par une population assez incroyable, enfin un pourcentage assez incroyable lors de sa première diffusion en Colombie. Et les producteurs insistent sur le fait. En plus, les deux producteurs réalisateurs, enfin créateurs de la série, enfin de la telenovela, ont été directement impliqués. On sont directement impliqués avec Pablo Escobar parce que l'un d'eux est le fils de Galán, un des types qui était candidat à la présidence au Colombie, qui avait été assassiné. Je sais pas, ça avait fait pas mal de bruit cette histoire à l'époque. Et l'autre est le fils d'un journaliste qui a également été tué par des narcotrafiquants. Donc, mais il préfère dire que la telenovela, l'histoire en 74 épisodes, donc, eh bien, va être quelque chose de didactique, mais qui va prendre considération de tous les côtés de Pablo Escobar, c'est-à-dire les bons côtés qu'il avait comme les mauvais côtés. Donc, c'est à suivre sur France O à partir de ce soir, 20h40. Demain, ce soir également, ou alors ce soir sur TCM, on nous refait le coup de samedi dernier, c'est-à-dire le choix entre deux films. Double séance quoi, tu vois. Alors c'est pas mal parce que bon bah c'est quand même des très très bons films hein, ce soir sur TCM. Le choix, la première séance c'est entre Un si doux visage de Preminger avec Michou et Gene Simmons.
Je dis juste en fait ce qu'ils ont mis sur leur Facebook, La guerre au sol ou dans les airs. Mmh. Hein, c'est pas mal.
Par rapport à
au film à choisir.
Au film à choisir.
Ah d'accord. Non, c'est pas ça du tout quoi. C'est violence physique
leur
ou
Facebook
psychologique.
N'est pas à jour.
Ah non, d'accord, c'est celui de la semaine prochaine, pardon.
Ok, d'accord. Alors, c'est Un si doux visage confronté à Nous avons gagné ce soir de Robert Wise, le film avec Robert Ryan en boxeur, qui normalement doit se coucher parce que son manager lui a dit, mais qu'il décide de pas se coucher et tout. Enfin bon, bref. Mais c'est pas mal, hein, c'est un très très bon film sur la boxe. Suivi de la deuxième séance, Traître ou héros. Alors, tout d'abord, un film de John Ford, Le Mouchard, avec Victor McLaglen et Heather Angel, un film qui se passe dans le Dublin des années 20. Et Le Mouchard, en fait, c'est un mec qui balance plus ou moins ses potes qui ont des sympathies pour les nationalistes irlandais. Victor McLaglen, qui est le papa de Andrew, hein, le réalisateur, qui est né en 1886, mort en 1959, qui bah, a pas été enfant de la balle, mais a travaillé dans les années 1910-1920 dans les spectacles itinérants, dans les vaudevilles et les trucs comme ça et tout. Il a même rencontré, et là c'est du sport, hein, il a été boxeur amateur, il faisait des compétitions, des exhibitions comme ça, quoi. Il se déplaçait de ville en ville. Tu peux me baisser un petit peu le son là, s'il te plaît hein.
On l'entend plus.
Merci. Il a même rencontré lors d'une exhibition, donc le combat n'avait aucune valeur, Jack Johnson, qui à l'époque était le champion poids lourd de l'époque, ouais. Donc c'est pas n'importe quoi. Et c'est lui qu'on retrouve donc dans le rôle titre de ce mouchard de John Ford, rôle titre pour lequel il a obtenu en 1935 l'Oscar du meilleur acteur.
C'est sur quelle chaîne ça, pardon?
Ça c'est sur TCM. Donc ce soir hein, à 22h15, le mouchard est choisi, est choisi parce qu'il y a également le film de Jean Renoir de 43, Vivre libre, qui se passe dans le monde de la résistance en France, mais c'est interprété à l'époque, Jean Renoir était aux États-Unis, c'est interprété par Charles Lofton, Maureen O'Hara et George Sanders. Demain,
sport. On nous oui. Signe sur le petit oiseau que tu as franchi la ligne blanche en parlant de la série colombienne.
Ah bon, d'accord. Voilà. Demain, sur France 3, dans le cinéma de minuit à 0h15, un film de Jack Clayton, Les Innocents, un film fantastique anglais de l'année 1961 avec Deborah Kerr et Martin Stevens, pardon. Sinon, sur Polar, demain, il y a également The Two Jakes. Le film de Jack Nicholson, avec Jack Nicholson, Meg Tilly, Matt Dunstow et Harvey Keitel, qui à l'époque se voulait un petit peu la suite de Chinatown, un peu dans la même veine, c'est-à-dire ça se passe à la même époque. Enfin, ce film est plus une comédie, on va dire, un peu dramatique que le Chinatown original de Roman Polanski. Mais ça se laisse regarder quand même. Sympa quoi, c'est sympa quoi.
Et puis il n'y a pas de nez mutilé cette fois-ci.
Non. Sur Cinéfix demain, également à 21h, La petite boutique des horreurs, le film préféré de Xavier.
Ah oui.
C'est la version de Francoz, c'est-à-dire le film musical avec Eric Moranis, Alain Green, Vincent Gardinia. Mais le film est vraiment très très bien quand même. Ou sinon, demain
assez
soir.
Assez flashy et puis ça change de l'original en noir et blanc surtout.
Ouais, non, mais il est vraiment bien quoi.
Oui, il est fun.
Et produit par Disney. Demain, sinon sur Action, on a Time and Tide de Choi Ark.
Excellent.
Ça
excellent,
peut le faire.
Excellent.
Lundi, en vous levant, on vous le survend.
Ça donne envie de le revoir, tiens.
Si vous regardez Canal en ce moment, on vous le survend. C'est lundi, donc la saison 2 de Borgia. Sinon, sur Paris Première, bonne soirée cinéma avec tout d'abord les héros de Télémarque d'Anthony Mann, Kirk Douglas, Richard Harris, Michael Redgrave, suivi de Super Vixens de Russ Meyer. S'il n'y en a qu'un, c'est celui-là qu'il faut regarder.
Parce que
c'est quand même le meilleur. Il n'y a pas à péter, quoi.
105, 110.
Avec Charles Napier dans le rôle du flic, le pompiste qui est injustement accusé d'assassinat de sa femme, mais bon, en fait, c'est une vraie connasse, quoi. Donc cette espèce de road movie où le jeune héros va faire de surprenantes découvertes et rencontres. On a également lundi dans le plus classique. Ciné plus classique, Jugement à Nuremberg, avec une pléiade incroyable de stars pour ce film qui n'est ni plus ni moins que la retranscription du vrai Jugement à Nuremberg, mais enfin bon, des interprétations qui laissent un petit peu sur le cul des fois quand même. Polar vous propose à 21h lundi toujours La clé de verre de Stuart Eisler, ou alors sur Action, un film que j'ai vendu et que Thomas a regardé, qui m'a dit tu m'as eu, c'est Ninja en guerre avec le faux Anthony Wong mais le vrai Casper Van Dien.
Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors mardi sur RTL9 à 20h40, Une virée en enfer, un excellent John Dahl dont je vous ai déjà parlé, avec Paul Walker et Steve Zahn.
De toute façon, John Dahl, il a fait que des bons films.
Ouais, mais là c'est pas mal, parce que cette histoire de road movie avec un camion qui poursuit, ça fait penser à Duel et tout, ouais. Quoi. Mais c'est vraiment excellent. La fin, elle te laisse sur le cul en plus, parce que tu dis ah bon. Et il y a la plastique avantageuse de Lily Sobieski. Il y a tout pour plaire.
Tout en plastique.
C'est mardi également que vous pouvez vous revoir ou voir au Brother des Coen Brothers, quoi.
Ah ouais,
ou sur FX, mardi à 21h, La chambre des tortures de Roger Corman avec Vincent Price et Barbara Steele, suivi de L'effroyable secret du docteur Hickok. Et ça, c'est un Ricardo Freda, par contre, mais de la même époque. Ou alors sur OCS géant, Massiste contre le fantôme. Ils s'y sont mis à deux pour le faire, celui-là. Sergio Corbucci, quand même, hein, Django. Et Gerardo Gentilomo pour Massiste contre le fantôme, avec Gordon Scott.
Tout le temps ici.
Gordon Scott dans le rôle du
un habitué, quoi.
Du fantôme.
Ouais.
Alors j'en étais à mardi, mercredi, parce que c'est vraiment le bordel là. Mercredi. Mercredi sur D17, deux petits nanars sympas, La rivière du crime de Rich Cowan avec Ray Liotta, Christian Slater et Wim Rams. Donc que des acteurs qui ont joué dans des bons films et qui ont été excellents.
Et qui se retrouvent dans Ils
se retrouvent avec un redressement fiscal au cul.
Voilà. Ils sont suivis à 22h25 par d'autres redressés fiscaux au cul. Qui opèrent dans Blood Out, un film encore plus récent, 2011, de Jason Hewitt, Luke Goss, 50 Cent, Vinnie Jones et Val Kilmer.
Non, tu le crois
ou tu le crois pas?
Tu le crois pour une raison toute simple, c'est que Canal+, à force d'acheter les catalogues, ils ont quand même un gros catalogue de trucs absolument pourris que même pour CanalSat, ils oseraient pas. Donc, on va s'acheter une chaîne hertzienne pour le diffuser. Et puis voilà.
Je vous en ai gardé des bons pour mercredi quand même, avec sur Ciné Plus Classique à 20h45, Le mystérieux docteur Corvo d'Otto Preminger avec Jean Tierney, magnifique Richard Conte et surtout José Ferrer qui interprète le rôle du docteur Corvo. Ou alors sur FX, mercredi, Blackula, le vampire noir.
Il est marrant
avec William Marshall, le film de William Crane, hein,
c'était à la période Blaxploitation. Donc années 70, c'est franchement disco à mort, ouais. Mais vraiment une grande tranche de rigolade, et allez-y, mettez le son à fond, même si c'est un doublage français, mais assez catastrophique quand même.
C'est terrible. Ouais. Jeudi, on on a que des excellents films avec sur Paris Première, Rec de Jaume Balagueró et Paco Plaza à 22h30, sinon sur NT1 à 20h45, G.I. Joe, ah ouais, ou alors
ouais,
sur, Gulli, sur Gulli à 20h30.
J'ai vu la bande-annonce du 2 hier, ça fait peur.
Ah, non.
Oui,
je l'ai vu, mais comment ils ont pu, je ne sais pas.
Ça y est, je peux reprendre dérivés. Là parce que vous me broutez mon temps là quoi. Je sais pas si vous êtes au courant.
Mais on broute ce qu'on veut.
Sinon sur Gulli jeudi prochain, Prince et Princesse de Michel Oslo.
Oui.
Film assez ancien de 1999. Ouais, film d'animation toujours. Hein. Ouais. Ou sur TF6, Welcome to Zombieland. Excellent, très bon, excellent, très bon. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg. Ou alors un autre film de John Dahl sur la chaîne Action jeudi prochain, Red Rock Quest. Ouais, pas mal quoi.
Ah, avec Nicolas Cage,
Denis Hopper, la Ranfin Boyle, ouais, c'est pas mal. Ou sur OCS Géant, Valentino, le film de Ken Russell sur la vie de Rudolf Valentino, interprété par un autre Rudolf, mais celui-là faisait de la danse, c'est Nureyev. Et Michel Philippe, c'est Leslie Caron. Le film, il est pas mal, il est vraiment sympa quoi. Je l'avais vu à l'époque au ciné, je peux dire que Ken Russell, il sortait de deux films musicaux où il avait fait adapter Tommy des Who, il avait adapté un autre film musical, je me rappelle pas lequel.
Et Tommy, c'était particulier. Hein.
Tommy, c'était en 74, il en a fait un autre après et ensuite il nous a fait ce Valentino, donc de facture très classique et tout quoi, mais avec Nureyev, là c'était la grosse surprise quand même. Parce que Nureyev, il était pas du tout acteur du tout quoi, et là il s'en sort vraiment très très bien. On termine avec Vendredi Ciné Plus Classique, vous propose à 22h10 Bodyguards, un assassin de Teddy Chan avec Donnie Yen, Simon Yam, Nicolas Tse. J'achète.
Que du lourd.
Et sur Ciné Plus Classique, vendredi prochain, Comment j'ai gagné la guerre de Richard Lester avec John Lennon et Michael Crawford. Alors le film est vachement rigolo. Il est vachement sympa à voir. Hein, mais c'est l'histoire de deux soldats pendant la guerre, un Allemand, un Anglais, et ils doivent plus ou moins s'occuper des. Ils sont pas sur le front, hein, ils sont à l'arrière et tout. L'un est prisonnier de l'autre et ils doivent s'occuper de ce qui se passe autour, c'est-à-dire l'entretien, quoi, tu vois, quoi, construire un terrain de cricket, des trucs comme ça et tout. Et donc ils se racontent des conneries sur la guerre, des trucs comme ça. Mais c'est pas mal, c'est sympathique et c'est John Lennon quand même dans un de ses rares rôles de composition. Vendredi également prochain sur Polar. Confession of Pain de Andy Lau et Andy Mack, Alan Mack avec Tony Leung, Takeshi Kaneshiro, ça te dit quelque chose?
Oui, oui. Le japonais qui est, le hongkongais d'origine japonaise, oui. C'est le duo de réalisateurs de Infernal Affairs.
Yes, tout à fait. Et sinon, sur FX, on a également à 21h l'horrible cas du Dr. X avec Ray Milland qui joue le rôle du Dr. X. C'est un Corman de 63. Suivi, toujours dans la veine de Corman qui a adapté beaucoup de Edgar Allan Poe, La tombe de Ligeia à 22h15, donc de Corman en 64. Et on termine avec un petit western de Derrière les fagots de Sam Wanamaker sur la chaîne Action vendredi prochain à 21h. Yul Brynner, Richard Crenna, Leonard Nimoy, Catlow, dire,
putain,
c'est pas mal. C'est un bon petit western qui se laisse vraiment regarder.
Ma foi, il est 13h, 32 minutes, 32 secondes, 32 millième sur l'horloge atomique de Radio FMR. Et on arrive à la fin de ce supplément week-end, puisque donc du sport a des invités.
Pour l'instant, on n'en voit qu'un.
Oui,
c'est vrai.
C'est vrai. Et ma foi, je suis sûr que vous avez manqué plein de choses en écoutant en diagonale cette émission en arrivant en cours d'antenne.
C'est pas possible, ces autres directeurs.
Mais non, mais s'ils peuvent, ils ont d'autres choses à faire. Et voilà, et ça se comprend. C'est le début du week-end, il fait beau.
Oui, les autres.
C'est un peu venteux. Thomas, qu'est-ce qu'ils ont manqué?
Eh bien, entre autres, ils ont manqué des audilecteurs chez le dentiste, du catch mexicain et des aliens, l'interview en courant, je vous laisse faire le jeu de mots avec Ron, un bordel mafieux, de la léchouille d'incisive, pas de gros nez suédois, un ovni qui donne mal à la tête, une histoire de coucherie, de la vraie connasse et des vraies rencontres, du plastique, des redressés fiscaux et du cricket.
C'était une sacrée émission.
Oui, celle-là, elle était pas mal du tout, mais si vous avez manqué le début et que vous êtes alléché par ce résumé, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi écoutez les précédentes, voir les chroniques qu'on a publiées comme Trouble is my business ou Knights of Sidonia. Posez vos questions au courrier des audilecteurs, pour cela c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr sans accent ni tiré. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Et ma foi, on se retrouve la semaine prochaine, même en même fréquence. Qu'est-ce qu'il y aura? Je crois qu'il y aura du coup du Zlatan. Je crois qu'il y aura du journaliste de guerre dans une île carcérale. Qu'est-ce qu'on aura d'autre?
Toujours plein d'autres lecteurs qui vont nous écrire.
Ouais, bah j'espère bien. En tout cas, là, on aurait peut-être dû garder ce tweet pour la semaine prochaine, ça aurait été plus drôle, je pense. J'espère en tout cas que vous êtes heureux et qu'on vous a redonné le smile pour la semaine. Alors, débutez bien ce week-end. Vous êtes sur FMR 89.1 MHz. Il fait beau, il fait chaud. A plus, ciao, bye bye. Merci à toute l'équipe.